la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, qui dénonce, Pierre-Yves, des situations préoccupantes dans la rémunération des hauts dirigeants de sociétés d'État.
On peut faire ça dans l'ensemble de la gestion de l'État. C'est que il y a des sociétés d'État qui sont dites commerciales. C'est Hydro-Québec, SAQ, Loto-Québec. Et les PDG sont rémunérés en se comparant parfois, selon la vérificatrice générale, à des entreprises cotées en bourse. Mais on s'entend-tu que le pire, c'est Loto-Québec. T'sais, le PDG de Loto-Québec a un système bien établi. Il rentre là. On peut faire des petits changements, mais il y a de la réglementation. En somme, qu'il soit là ou qu'on le remplace par un drapeau sur un terrain de soccer, on va générer 3,7 milliards quand même. Tu comprends-tu de vente, puis 1 milliard et plus, 3,3 de bénéfices nets. Parce que c'est un monopole. La SAQ aussi a un certain monopole. Donc, t'as même pas besoin d'avoir une stratégie pour battre tes concurrents. Autre point, on dit, hey, les cibles, tu sais, l'entreprise privée, Paul, il y a des courbes normales qu'on appelle statistiques. C'est-à-dire que on a un montant pour des primes, pour des bonus à variables, et c'est réparti entre le monde. Et il faut que tu sois meilleur que ton voisin pour avoir ton bonus, parce que si tout le monde est bon, on n'aura pas tous un bonus, tu comprends? Faut que tu sois le meilleur de ta gang. Et là, on nous dit, hey, les cibles au gouvernement, là, c'est comme un chèque automatique. C'est bien trop facile à atteindre. Autre point, elle dit, écoute, c'est pas juste, tout le monde devrait être évalué de même. Puis tu sais, Paul, je connais des institutions d'enseignement où la rémunération, les packages qui sont donnés, les primes de départ, les ententes pour acheter la paix sont hors de prix. Parce que faut pas oublier une chose, quand on donne une prime de séparation à quelqu'un d'habitude, c'est quoi? Un mois par année de service et s'il y a justice à le licencier. Quand tu es dans le public, c'est un autre game, là. Des fois, ta job, tu l'as quitté puis les primes sont très élevées. Donc, en somme, elle nous dit, c'est vraiment laxiste comme système. Il faudrait resserrer la vis un petit peu.
Alors, parlons maintenant de l'achat de Transat par Air Canada. Ça, c'est très intéressant, ce que révélait la presse aujourd'hui. Peter Letko et Daniel Brosseau dirigent une firme de gestion d'actifs qui porte leur nom. Et il ne faut pas oublier qu'ils détiennent 20 % dans Transat. Et les deux s'opposent à la proposition d'Air Canada qui projette d'acquérir Air Transat sur la base d'un prix de 13 $ par action.
Ils disent, écoute, ça vaut plus cher que ça parce que là, l'entreprise est pour l'instant dévaluée. Pourtant, en bourse, comment ça fonctionne? Quand une entreprise est vendue à un prix, c'est parce que l'offre et la demande est là. Évidemment, on peut se dire, le potentiel est plus grand. Il y avait une grande prime offerte. Ils ont fait monter le prix de l'action beaucoup. Mais ce qui est drôle, il y a deux choses là-dedans. Il y a des gens qui me disent aujourd'hui, ouais, mais attends une minute, là. Ils sont actionnaires dans Transat puis sont actionnaires dans Air Canada. Pourquoi ils font une sortie publique? Ils sont actionnaires dans les deux.
Ben oui, c'est vrai parce qu'ils sont actionnaires à hauteur de 10 % dans Air Canada.
Mais ils vont payer, ils vont recevoir 20 % de l'augmentation de prix potentiel d'Air Transat et ils ne vont qu'assumer que 10 % du coût pour Air Canada. Donc, eux, ayant une position avantageuse pour Transat, préfèrent une transaction, même si leur placement dans Air Canada vaut vraiment plus cher. Le pourcentage de leur part de l'augmentation du prix potentiel est plus intéressant d'un point de vue de propriétaire. Et ils sont brillants. Aujourd'hui, ils sortent dans la presse et ils disent « Ouais, si t'es un investisseur intelligent, tu vas pas accepter le prix de 13$. » Là, il est en train de dire « insulté par la banque tous ceux qui ont tous ceux qui seraient prêts à accepter 13$ et on va aller chercher le tiers des actionnaires comme ça pour faire changer le prix. » Et toi, Paul, qui aime tellement l'aviation avec WestJet et tout ça, ça fait en sorte que dans le fond, Air Canada a une forte propension à vouloir faire l'acquisition. Donc, ils seraient peut-être prêts à mettre un peu plus. Et c'est ça leur argument.
Mais je te lance comme ça une petite réflexion parce que dans le même article de la presse aujourd'hui, on citait le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Il rappelle que Québec a plusieurs discussions avec des investisseurs qui présentent des solutions 100% québécoises à la vente d'Air Transat. Plusieurs discussions qui présentent des solutions 100% québécoises.
Qui au Québec sait comment gérer un transporteur?
Ben, ça m'étonne un peu.
C'est qui sait gérer un transporteur et qui ferait l'acquisition et qui aura un avantage? Là, tu as Air Canada qui peut faire des économies d'échelle, de la synergie, offrir un produit différent. Est-ce que les acquéreurs potentiels au Québec pourraient donner une plus-value? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus pour l'actionnaire. On a beau faire 1000 scénarios, mais pour l'actionnaire, il veut des gestionnaires et des propriétaires qui sont capables de faire gérer l'entreprise pour faire des profits, pas juste pour sauver un fleuron. Alors, est-ce que vraiment au Québec, il y a des gens qui s'y connaissent assez en aviation pour redresser la situation et la faire augmenter et profiter de synergies quelconques. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises ici qui pourraient faire ça.
La question, en tout cas, mérite d'être posée. Finances personnelles, ne pas sous-estimer les dividendes.
Oui, tu sais, la Banque nationale aujourd'hui, une petite annonce, là, on va faire passer notre dividende trimestriel de 65 cents à 68 cents. Là, les gens lisent ça à 3 cents, je m'en fous. Attention! 3 cents par trimestre égale 12 cents par année. OK? Donc, d'augmentation, mais un dividende total de 2,72 $ par année. 2,72 $ par année sur un prix d'action actuellement à 60 $ vous allez chercher du 4,5% en dividende, en plus du gain potentiel de l'action. Même chose pour la Banque Laurentienne, on augmente d'une cent le dividende, mais ça apporte le dividende finalement à 2,64 $ par année. Donc, 6,2% pour une banque, là. On n'est pas dans le pot, là. C'est quand les gens me disent, Pierre-Yves, tu parles souvent de 6%, regarde, les dividendes te le donnent, il te reste juste à faire du rendement avec ton action. Et l'autre chose qui est le fun, quand tu as 4 fois du dividende par année en dividende liquide, tu peux réinvestir 4 fois dans l'année. Donc, 7-8 actions, on n'en parle pas, mais quand vous avez beaucoup d'actions dans vos portefeuilles, 4 fois par année, vous recevez des dividendes et vous achetez la courbe qui est en haut, en baisse, en haut, en baisse. Donc, ça vous aide à, excuse-moi l'anglicisme, smoother votre portefeuille.
Mais c'est un avantage imposable.
C'est un avantage, oui, mais ça dépend. Si dans ton REER, t'es imposable à la retraite, si dans ton CELI, il sera jamais imposable. Et là, Paul Panzi, quand t'es à la retraite puis t'as des actions dans ton CELI, dans le fond, les dividendes deviennent une rente. Le dividende devient une sorte de rente dans tes flux monétaires que tu prévois.
Ben oui.
Tu sors ça de ton CELI, t'as pas d'impôt,
pas d'impôt.
T'es grand période.
Ben
et là, tout le monde parle de leur placement de fou. Et toi, tu peux te dire, hey, moi, là, j'ai fait des dividendes toute ma vie bien tranquille, là, relativement pépère, et je me suis bâti une retraite appréciable.
C'est très sage. Merci beaucoup, Pierre-Yves.
Salut.
Au revoir.